présenter une introduction aux écoulements diphasiques, puisque ce sont des écoulements et des situations que l'on va rencontrer de manière assez fréquente dans ce qui concerne les études pour les réacteurs nucléaires. Donc on les rencontre à la fois pour des questions de design, et notamment le design des échangeurs générateurs de vapeur, hein, puisqu'on va, passer de liquide à vapeur côté secondaire, mais on va retrouver aussi des configurations diphasiques dans des situations accidentelles qui se présentent dans des scénarios accidentels qu'on doit étudier. Et donc on doit être en mesure de modéliser de manière la plus précise possible avec nos outils de calcul et d'avoir des modèles qui nous permettent de représenter ces écoulements qui peuvent être très complexes. Donc vous avez ici, pour illustrer, trois figures. Là, la figure de gauche qui présente une bulle avec un petit train de bulle derrière, une bulle assez large d'ailleurs. Au centre, vous avez un écoulement très très chahuté avec des structures beaucoup plus petites, mais qui semblent bien agitées, donc des petites bulles un petit peu partout. Peut-être d'ailleurs que la quantité de gaz et de liquide sont les mêmes de part et d'autre, mais elles ne se présentent pas sous la même structure. Et puis à droite, vous avez une expérience ici d'un barreau chauffant autour duquel de la vapeur est générée avec des bulles de vapeur qui peuvent rester accrochées au barreau et puis d'autres bulles qui peuvent s'échapper du barreau et créer un écoulement et un mouvement dans le milieu environnant. Alors, bon, de manière très générale, on va rencontrer un écoulement diphasique dans certaines conditions de pression et de température. Et lorsque le fluide a une pression inférieure à la pression critique, la présence d'écoulements diphasiques est possible. Donc pour une température donnée, une pression donnée, l'écoulement va se trouver soit en situation purement liquide, soit en situation vapeur, soit éventuellement dans une configuration diphasique. Dans ce cas-là, la température sera la température de saturation à la pression donnée. On peut aussi définir un paramètre qui est le titre thermodynamique, hein, qui est la quantité de qui est le taux de présence de la vapeur dans un fluide, dans une masse de fluide. Donc le taux de présence de vapeur par rapport à la masse totale de fluide, c'est le titre thermodynamique, et on peut aussi considérer que c'est la différence d'énergie sous forme d'enthalpie, l'enthalpie de ce fluide moins l'enthalpie à saturation sur la chaleur latente donne le titre thermodynamique. Alors, quand est-ce qu'on rencontre par quelle transformation peut-on rencontrer des écoulements diphasiques? Donc, si on regarde l'évolution de la courbe en rouge, donc on part d'une zone liquide, d'un fluide qui est liquide, monophasique liquide, à une température inférieure à la température de saturation à une pression donnée. En transférant de l'énergie vers ce fluide, la température va augmenter jusqu'à atteindre la température de saturation, et à partir de cette température de saturation, une fois qu'elle est atteinte, la présence de gaz sera possible, la présence de vapeur sera possible. Plus on va chauffer, plus le taux de présence de la vapeur sera important, jusqu'à atteindre la saturation ou l'autre courbe de saturation, l'autre branche de la courbe de saturation. Et dans ce cas-là, le fluide sera entièrement vaporisé. Alors, dans les turbines, on a un fluide qui est sous forme vapeur, et lorsqu'on détend, c'est-à-dire qu'on fait passer le fluide d'un niveau de pression donné à un niveau de pression inférieur, d'ailleurs en recueillant aussi de l'enthalpie, c'est pour ça que de l'énergie mécanique sur ce fluide, c'est pour ça que ma flèche verte part sur la gauche, hein, c'est pour figurer le fait qu'on a une baisse d'enthalpie du fluide, puisque le fluide donne de l'énergie mécanique dans la cette flèche verte donc, montre que, partant d'un fluide monophasique vapeur, ou à saturation vapeur, eh bien, on va, lors de la détente, créer finalement du liquide. C'est-à-dire que la vapeur ne restera pas purement vapeur, mais il y aura une structure avec du liquide et de la vapeur. Et puis, on a courbe bleue, une évolution de pression ici, de la même manière sous forme de détente. Hein, c'est par exemple le passage dans un diaphragme où on ne prend aucune énergie mécanique au fluide, donc l'enthalpie reste constante, mais par contre le fait de changer de pression fait qu'on peut faire apparaître, à partir d'un fluide en situation liquide, on peut faire apparaître de la vapeur. Donc ces écoulements diphasiques, ils apparaissent dans tous nos échangeurs, dans les turbomachines, mais aussi dans les situations accidentelles, hein, comme je vous l'ai annoncé. Alors la typologie des écoulements, donc les écoulements diphasiques qui se présentent avec une grande diversité de formes, hein, en fonction d'un certain nombre de paramètres principaux que j'ai cités ici. Donc, d'abord les débits, hein, des phases, c'est-à-dire que les deux phases vont circuler à des niveaux et à des débits différents. Donc les débits jouent un rôle important sur la forme de cet écoulement diphasique, hein, au travers notamment des forces de frottement à l'interface entre les deux phases. Le niveau de pression est important aussi du fluide, dans la mesure où il joue sur le paramètre masse volumique liquide et vapeur. Donc le rapport des masses volumiques fait qu'on peut avoir éventuellement beaucoup de une situation où le gaz prend beaucoup de place subitement dès qu'il est créé. L'orientation de l'écoulement est aussi importante, puisqu'on peut voir apparaître des phénomènes de stratification liés en écoulement horizontal, alors qu'en écoulement vertical, on n'aura pas ce phénomène, mais on aura un phénomène d'écoulement ascendant lié à la gravité. Et puis la nature du fluide est aussi importante, puisque au travers de la nature du fluide qui est utilisé, on a des paramètres tels que la tension superficielle, hein, qui règle un peu la structure et la taille des structures qu'on verra apparaître. Bon, nous, on sera en eau vapeur. Donc les différentes configurations, typiquement, un écoulement dispersé à bulle ici, un écoulement dense à bulle, un écoulement à bouchon, donc vous voyez un bouchon qui s'est créé, ici un écoulement très, très fortement déstructuré, et sur la gauche, bon, écoulement annulaire dispersé, bon, annulaire dans la mesure où le liquide est principalement sur les parois du tube et du tuyau du tube là, et au centre on a un écoulement qui est plutôt majoritairement en vapeur et en gaz. Donc cette cartographie des écoulements, évidemment, elle se développe et elle se présente dans les différents appareils. Alors pour savoir dans quelle situation on est, dans le passé, des cartographes, hein, ont bien étudié toutes les situations et ont cartographié les écoulements et leurs formes en fonction de paramètres explicatifs qui sont liés à la nature de l'écoulement en termes de masse volumique, en termes de vitesse superficielle des phases. Donc, c'est des paramètres explicatifs qu'on peut obtenir et qui nous permettent de dire si on est dans des situations annulaires, écoulement à bulle, écoulement agité. Donc, typiquement pour un générateur de vapeur, entre le bas où on part, où on est monophasique en partie basse, et la partie haute, si on fait l'effort de regarder les paramètres associés à cette cartographie, ben on voit qu'on passe d'un écoulement à bulle, puis un écoulement dispersé, pour aller vers un écoulement annulaire. Voilà. Donc c'est différents types d'écoulements qui peuvent être rencontrés dans un générateur de vapeur. Si on se place en situation horizontale, ben on peut voir apparaître des phénomènes de stratification, hein, comme je vous le disais. Donc plus la vitesse est faible des phases, plus les deux phases auront tendance à se désolidariser l'une de l'autre et à se découpler, donc on aura des écoulements stratifiés. Par contre, plus les vitesses vont augmenter, ici le liquide, on augmente ici la vitesse du liquide, vous voyez, c'est d'une part le taux de vide, mais aussi la vitesse de la phase, vitesse de gaz, vitesse de liquide. Donc si on va vers une augmentation de vitesse de liquide, et bien ce liquide va entraîner la phase gazeuse et va générer dans la phase gazeuse finalement une structure de petites bulles. Voilà. Il y a tout un tas de configurations intermédiaires qui sont aussi cartographiées. Alors comment on fait pour s'y retrouver ? On a besoin, en fait, quand on veut modéliser ces situations, d'avoir de remoyenner un petit peu les informations, puisqu'on a vu que les choses étaient très chahutées, l'écoulement se présentait de façon très chahutée. Donc on procède par moyennage, à la fois en temps et en espace. Et une manière, par exemple, d'aborder ces moyennes, c'est de regarder ce qui se passe quand on place une sonde optique qui va aller au sein d'un écoulement mesurer le passage d'une interface liquide-gaz. Donc si la sonde perçoit du liquide ou du gaz, eh bien le retour de cette sonde optique sera différent. Donc on voit un front, donc le front c'est le passage de l'interface, et on verra apparaître la phase 1 ou la phase 2 pendant un temps donné. Et donc ça nous permettra, en moyennant ça, de voir que à cette position-là, pendant un certain temps passe du gaz, pendant un autre temps passe du liquide, et donc ça nous permet d'avoir accès au taux de présence de gaz et de liquide en ce point. Donc ça se fait par des sondes optiques. Vous voyez un exemple de sonde optique. Et si vous avez deux sondes placées l'une derrière l'autre, ben vous aurez aussi la vitesse d'écoulement, puisque vous verrez le front, l'interface, ce front-là qui va se reproduire un petit peu plus loin. Donc vous pourrez, en mesurant le temps T, la différence de temps entre les deux sondes, pour que l'interface atteigne les deux sondes, vous aurez la vitesse de déplacement de l'interface. Donc ce qu'on fait généralement, c'est que on définit un taux de présence. Donc si la phase K est présente, ben on lui donne la valeur 1. Si la phase K n'est pas présente, on met 0. Et donc, en termes de processus utilisé pour modéliser nos écoulements, on a un certain nombre de moyens pour moyenner en temps et en espace ces différentes variables. On fait des moyennes, par exemple une moyenne volumique. Ici, on définit un volume de contrôle qui est le volume oméga, dans lequel on sait qu'on va avoir une partie qui est gazeuse, une partie qui est la phase K, une partie qui est la phase L. Évidemment, le total, c'est le volume global. Et donc, on peut définir une moyenne de toutes les quantités dont on a besoin sur le volume total, d'une part, et définir, grâce au taux de présence que j'ai indiqué tout à l'heure, le taux de présence d'une phase ou le taux de présence de l'autre phase. Si on veut maintenant, avoir une variable particulière, connaître une variable particulière qui pour l'écoulement diphasique, par exemple ici la masse volumique, la masse volumique sur le volume donné, c'est en fait la masse de vapeur plus la masse de liquide divisée par le volume. Mais en pratique, on va avoir la masse volumique de la phase vapeur moyennée sur le volume de la phase vapeur multipliée par le taux de présence de la phase vapeur dans le domaine, plus la masse volumique de la phase liquide sur le volume de la phase liquide multipliée par, donc 1 moins alpha, en fait, c'est le taux de présence de la phase liquide dans le domaine. Et donc, c'est comme ça qu'on récupère des valeurs homogènes de notre fluide diphasique. Donc, en fait, le fluide diphasique est bien composé de deux phases, mais on reconstitue une variable qui est une variable homogénéisée, prenant en compte les taux de présence des phases. Et ça, on peut le faire pour tout un ensemble de variables. Donc la masse volumique, je viens d'en parler, mais on a aussi le titre massique, le titre dynamique, qui est le titre massique, mais en fait ce sont les débits, c'est le rapport du débit vapeur sur le débit total. Le titre massique, c'est le rapport de la masse vapeur sur la masse totale, etc. On a plein de moyens d'utiliser des variables qui représentent les écoulements diphasiques qu'on va utiliser dans nos équations de conservation. Donc, je ne présente pas les équations de conservation, mais par contre, peut-être deux grandes classes de modèles hein, qu'on peut utiliser. Donc un modèle homogène équilibré, les deux phases seront considérées à saturation et les vitesses de liquide et de gaz seront égales, donc égales à la vitesse moyenne. Ou alors on a les modèles homogènes dits relaxés, c'est-à-dire qu'on va considérer toujours que nos deux phases sont bien à la saturation, c'est-à-dire que quand on utilise les propriétés des phases, on les considère à saturation. Par contre, les vitesses de liquide et de gaz ne sont pas forcément égales et il faut avoir des relations entre ces vitesses de liquide et ces vitesses de gaz qui sont données par des modèles. Donc c'est essentiellement des pratiques expérimentales qui permettent d'obtenir ce type d'information. Alors, un point quand même très, très particulier pour les réacteurs nucléaires, c'est la connaissance des modes de transfert thermique. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour les réacteurs à eau pressurisée, puisqu'ils sont utilisés pour des problématiques de dimensionnement et de fonctionnement de l'ensemble des échangeurs. Donc on a besoin de caractériser ce qui se passe en ébullition, en condensation. Et c'est aussi un élément clé pour le design des cœurs et du combustible, notamment vis-à-vis de la crise d'ébullition, je vais y venir. Donc, ces deux dessins là, enfin ces deux figures vous présentent d'une part à gauche l'évolution dans un canal ascendant d'un fluide qui va rentrer liquide et qui va être chauffé par un flux que j'ai représenté par ma flèche rouge ici. Donc ce que vous voyez, c'est que au fur et à mesure que le fluide monte, il se charge en énergie, sa température évolue et à l'intérieur pour le fluide moyen, il peut y avoir apparition de petites bulles le long du bord du conduit, sans pour autant que le fluide ait atteint la saturation. C'est-à-dire qu'il y a une zone ici où c'est un petit peu plus chaud, on a créé des bulles, mais le fluide n'a pas atteint la saturation. Puis ces bulles, elles se détachent, et elles viennent à l'intérieur de l'écoulement. Et enfin, on atteint une situation de saturation. Et là, donc toutes les bulles qui sont créées vont aller au sein de l'écoulement et vont aller se rassembler au sein de l'écoulement. Petit à petit, une partie liquide très fine subsiste le long de la paroi et un flux thermique peut être transmis entre la paroi chaude et la partie vapeur, et il ne reste plus que des petites gouttelettes de liquide qui sont entraînées dans l'écoulement. Donc ça, c'est typiquement le genre de configuration qu'on voit apparaître dans les conduites ascendantes chauffées à haut débit. Si on regarde sur le côté droit, en fait, on est ce qui apparaît sur la figure, c'est d'une part l'évolution, donc vous voyez ici l'abscisse en bas c'est la température. Donc vous avez l'évolution de la température de fluide ici, donc le fluide chauffe, atteint la saturation, reste à température constante tant qu'on est à saturation, puis après la température remonte lorsqu'on a dépassé la saturation et que le gaz, qu'il n'y a plus que de la vapeur ou du gaz donc, l'écoulement. Et ce que vous avez ici, c'est l'évolution de la température de la paroi qui, pour un flux donné, va être en contact avec le liquide, enfin avec le fluide. Donc la température de la paroi va monter jusqu'à une température qui va dépasser la température de saturation. Et dès que la température de saturation est dépassée d'un certain niveau, des petites bulles vont pouvoir commencer à se créer. Donc à partir d'un certain degré de surchauffe de la paroi, il peut y avoir de l'ébullition dite sous-saturée. Ensuite, la température de la paroi va rester relativement constante, et puis un saut va se produire de température au moment où on va assécher la paroi en face, en vis-à-vis. Donc la paroi étant asséchée, le coefficient de conduction thermique de conductivité de la vapeur étant bien moins bon que celle du liquide, eh bien le flux thermique ne pourra passer qu'au travers d'un écart de température beaucoup plus élevé. Donc, en fait, fait, les mécanismes de transfert thermique qui sont ensuite sous-tendus par ces différentes configurations d'écoulement. Donc on a des coefficients de transfert qui sont liés à la nature de l'écoulement. Donc lorsqu'on est encore en convection, lorsqu'on est encore majoritairement liquide, on est en convection forcée monophasique. À partir du moment où des bulles apparaissent et ces bulles viennent rejoindre le centre de l'écoulement, donc on est en ébullition sous-saturée, c'est-à-dire que les bulles formées vont se détacher et vont venir se recondenser au sein de l'écoulement. Donc ce processus de transfert thermique est extrêmement intense et extrêmement et fort, très fort vis-à-vis des transferts thermiques précédents. Ensuite, on aura de l'ébullition sous-saturée et de l'ébullition convective. Donc là, le milieu est globalement saturé. Et donc, on a une superposition entre le phénomène d'ébullition et le phénomène de transfert convectif dans le film liquide. Et au fur et à mesure que la quantité de liquide disparaît, ce phénomène-là, le phénomène d'ébullition, s'efface vis-à-vis de l'ébullition convective. Et enfin, on a la zone d'assèchement où il y a dégradation de l'échange thermique. Donc, ce qui nous préoccupe, ce sont les problématiques de crise d'ébullition qui peuvent apparaître. Donc, la crise d'ébullition, c'est un phénomène qui est expliqué là sur ce schéma. Donc, je reviens sur mon petit dessin de barreau chauffant. Donc, on va imaginer ici qu'on a la différence de température entre la paroi et le fluide à saturation, et ici le flux thermique qui est imposé dans mon barreau chauffant. Donc on reprend le phénomène qu'on avait vu précédemment. Donc on a d'abord de la convection liquide, ensuite on a de l'ébullition nucléée, et à un moment donné, le flux qui est imposé est tel qu'on ne peut plus augmenter ce flux sans que on assèche subitement la paroi. En fait, le liquide ne peut plus rentrer en contact avec la paroi pour produire de la vapeur, et donc c'est une zone d'assèchement qui vient le long de la paroi. Donc subitement, le flux qui doit s'évacuer dans le liquide ne peut se faire qu'au travers d'une augmentation très importante de l'écart de température. C'est ce qu'on appelle le flux critique. Ça arrive dans les cœurs de réacteurs, puisqu'en fait le flux est imposé par les réactions neutroniques. À partir du moment où ce flux doit être transféré vers l'intérieur du fluide, eh bien ça se traduit par une augmentation de température, des gaines de crayon combustible qui peuvent détruire ces gaines. Voilà. Donc ici vous avez le phénomène qui est de nouveau explicité point par point, convection naturelle, ébullition nucléée, formation d'un film vapeur. Et quand vous avez atteint le flux critique, ici une température très chaude de la paroi, si vous baissez votre flux, vous n'aurez pas tout de suite un remouillage de la paroi. Il va falloir attendre d'avoir baissé le flux jusqu'à un certain niveau pour subitement réatteindre la situation d'ébullition nucléée que vous aviez laissée il y a un petit moment. Voilà, donc cette crise d'ébullition peut apparaître pour les réacteurs à eau pressurisée, lorsque les phénomènes, c'est un phénomène qui a lieu à fort flux, hein, qui a lieu dans les réacteurs à eau pressurisée, et qui est un élément très important pour le design. À faible flux, vous avez le même phénomène qui existe dans les générateurs de vapeur, mais cette fois-ci, vous êtes plutôt en mode assèchement, et c'est pas très grave pour la température de paroi. Donc, pour éviter de voir apparaître ce phénomène de film vapeur qui est créé en paroi, donc il faut en fait remélanger énormément les couches liquides, et c'est l'objet des grilles de mélange. Donc les grilles de mélange qui sont le long des crayons combustibles viennent en fait créer beaucoup de mouvements qui va permettre en fait d'éviter d'atteindre des niveaux de surchauffe très importants en paroi du liquide, et qui vont en fait mélanger le niveau de température et éviter de voir apparaître ce film vapeur. Voilà, donc c'est un élément important parce que la plupart des cœurs de réacteurs sont effectivement, les gestions combustibles sont essentiellement et fortement dimensionnées par la problématique de flux critique. On ne veut absolument pas que le flux critique apparaisse, puisque ce serait un moyen de dégrader la première barrière de confinement dont je vous ai parlé.